Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Nous allons parler carrière et emploi dans le goût d'entreprendre avec une chasseur de tête. Virginie Granier débusque des profils rares, talentueux pour ses clients, de la PME au grand groupe industriel. Quelles sont ses techniques? Quels sont les métiers porteurs? Et comment se faire repérer par un chasseur de tête? Être chasseur de tête est un vrai métier, c'est savoir chercher, trouver et convaincre un candidat de rejoindre une équipe, une entreprise. C'est en quelque sorte dénicher la perle rare. Bonjour Virginie Granier.
Bonjour Doris.
Merci de participer au Goût d'entreprendre sur Radio Présence. Alors depuis combien de temps êtes-vous chasseur de tête? D'ailleurs, on dit chasseur ou chasseuse? Qu'est-ce que vous préférez?
Les deux me vont très bien, mais je trouve que si on dit chasseuse, il faut bien préciser de tête, tant qu'à faire. C'est mieux.
Vous étiez commercial donc au départ. Vous avez fait une formation en école de commerce.
École de commerce. Et j'ai repris plus tard des études de psychologie également pour donner un peu plus de teneur au côté compréhension aussi des personnes. Mais effectivement, au démarrage, j'étais commercial et avec tout de suite quand même une forte goût et appétence pour les autres, je dirais, pour les autres personnes et la compréhension des autres. Et c'est vrai que le commercial et le recrutement se rejoignent assez sur le côté de l'écoute, finalement. Je pense qu'un bon recruteur et un bon commercial, ce sont des gens qui savent avant tout bien écouter. Donc, c'est pas si éloigné, finalement.
Ouais, c'est ça.
Qui savent aussi vendre, entre guillemets, puisque là, je vends aussi, quelque part, des entreprises, des postes auprès de mes candidats.
C'est ça, vous devez arriver à convaincre les gens de rejoindre l'entreprise.
Exactement. J'ai pas répondu à votre première question, ça fait 10 ans que je suis à mon compte en fait en tant que chasseuse de tête, effectivement. Ouais. Mais avant, effectivement, une expérience commerciale et aussi ressources humaines.
Alors, chasseur de tête, c'est quoi en fait? C'est un cabinet de recrutement, de recrutement un peu différent des autres?
Alors, c'est un cabinet de recrutement, mais c'est vrai que quand on recrute, les méthodologies, c'est que j'utilise les deux d'ailleurs, c'est du recrutement par annonce, mais c'est vrai que l'essentiel de mon temps, je fais ce qu'on appelle de la chasse de tête. Alors pourquoi la chasse? C'est en fait de l'approche directe, c'est-à-dire que c'est moi quelque part.
C'est pas très joli chasse, hein, comme
c'est
nom.
Pas très joli, mais ça veut dire qu'il y a une idée de ciblage, entre guillemets, de bien repérer. En fait, c'est parce qu'il y a un repérage en amont de là, dans quel type d'organisation et vers quel type de profil je vais aller avant de les approcher un à un. Parce que, en fait, pourquoi la chasse? C'est parce qu'on est parfois sur des métiers très pénuriques où l'annonce ne donne rien. Et donc, si je mets une annonce et je diffuse et j'ai zéro CV, il faut bien que je trouve une solution, parce que ça, c'est l'important pour mes clients, de trouver le candidat. Et donc, c'est moi qui vais vers eux.
Alors, la chasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en approche directe des candidats.
Exactement.
Vous les trouvez comment? Vous les appelez comment? Vous essayez de les convaincre de quelle façon?
Alors, on les trouve comment? Il y a beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un joli terrain de chasse, entre guillemets. C'est pas le seul, mais c'en est un, effectivement. Donc, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont maintenant, que l'on trouve, sur des profils variés. Après, c'est pas le seul. C'est la relation, c'est le réseau. C'est faire travailler le réseau aussi dans un métier. Faire parler, faire des connexions entre les gens, et puis utiliser des méthodes qui, la chasse, ça garde un petit côté mystérieux qu'il ne faut pas aborder, parce que justement il y a une petite part de mystère qu'il faut garder.
On veut tout savoir.
Voilà, on va garder une petite part de mystère, mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une belle occasion de trouver de jolis candidats.
Alors, comment vous faites pour les convaincre, ces candidats, parce que certains sont déjà en poste? Vous repérez quelqu'un dans votre viseur?
Voilà, c'est ça.
Vous le contactez et vous essayez de le convaincre.
J'essaye de le convaincre. Alors, effectivement, heureusement quand même, il y a un certain nombre de gens qui sont très bien dans leur poste, et c'est une très belle chose. L'idée n'est pas d'être dans l'agression. L'idée d'être, quand on arrive en général, quand je sens qu'il y a quelque chose, enfin, la personne elle-même était déjà un petit peu prête à ce moment-là. Et ça se sent parce que je vais lui demander tout de suite, déjà si je la dérange et si elle est à l'écoute du marché. Et très vite, il y en a qui vont me dire non et d'autres au contraire, qui vont montrer qu'ils peuvent être à l'écoute. Et comment les séduire? On séduit aujourd'hui des gens par le sens qu'ils ont dans leur travail. Donc ça va être un travail sur les valeurs, par exemple. Quelles sont leurs valeurs qui peuvent être en adéquation avec l'entreprise pour laquelle je recrute? Ça peut être sur l'épanouissement qu'ils peuvent avoir. Par exemple, passer, je ne sais pas, d'un grand groupe à une PME, ça peut être pour eux l'occasion d'être dans quelque chose de plus réactif, par exemple, de plus flexible. Donc c'est de l'écouter et ensuite de répondre par rapport à ses attentes, de travailler sur ses motivations. relation pour comprendre à partir de là sur quoi je vais pouvoir faire mouche, entre guillemets.
C'est ça, en fait. Là où vous allez pouvoir appuyer, là où ça fait mal.
Et là où ça peut faire vraiment de l'épanouissement, plus que mal, je l'espère. Voilà.
Alors, quelles sont les entreprises qui font appel à vos services ?
Alors, c'est varié. Ouais. C'est vrai qu'au départ, j'étais et je suis toujours quand même très tournée sur les PME. Et maintenant, c'est vrai que j'ai également des grands groupes. Mais pourquoi les PME ? C'est vrai que ce sont des personnes qui n'ont pas tout. Enfin, les PME n'ont pas toujours des services ressources humaines ou n'ont pas toujours de responsable RH. Et on a, pour, j'allais dire, un plus grand rôle de conseil à jouer. En plus, la problématique des PME par rapport à des grands groupes, c'est notamment de capter et d'attirer des candidatures spontanées. Et là-dessus, c'est pareil, il y a un rôle important à jouer pour leur amener les bons candidats. Parce que c'est vrai que les grands noms de les grandes entreprises, les gens les connaissent et vont penser à envoyer par exemple des candidatures spontanées. Il y a des PME, et bien les gens n'imaginent même pas toutes les possibilités qu'il y a. Et donc c'est un petit peu à nous, c'est notre rôle de recruteurs et de chasseurs de têtes, d'aller leur parler de ces entreprises où il y a de très belles opportunités de poste.
C'est difficile parfois de, j'allais dire, de faire passer le message. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Elles peuvent être géographiques, par
bien
exemple ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je travaille beaucoup étant Aveyronnaise. Enfin, mon papa, c'est une terre qui m'est chère pour des clients Aveyronnais. Mais par exemple, faire venir des candidats dans l'Aveyron, eh bien, c'est pas toujours très simple parce que, bah, effectivement, on sait que le réseau des entreprises est peut-être moins important et que quand il y a, par exemple, un conjoint, il va falloir accompagner tout ça aussi pour que lui ou elle trouve également. Ouais. Donc, c'est d'autant plus intéressant à la fois parce qu'il y a un vrai rôle d'ambassadeur, d'argumentation à mettre en avant.
Tout à fait. Est-ce que les entreprises sont exigeantes ? Elles recherchent le profil exceptionnel. On parlait tout à l'heure de la perle rare.
Tout à fait.
Ou pour parler familièrement, du mouton à cinq pattes.
Exactement. Ça continue. Et en France, c'est très vrai. C'est vrai qu'à l'inverse, peut-être des anglo-saxons, on veut souvent le clone. Celui qui est exactement du même environnement, qui a l'expérience, directeur commercial. On veut le directeur commercial qui était dans le même secteur d'activité, à l'inverse des anglo-saxons où finalement,
on
était exactement plombier, on peut devenir le lendemain informaticien. Et donc, mes clients sont très exigeants. Ils veulent effectivement le mouton à cinq pattes. Alors, j'essaye de coller le plus et puis parfois, on assouplit un petit peu les critères quand même.
Ah oui, c'est pas toujours évident de trouver.
C'est même parfois très difficile et ça peut prendre, certaines missions peuvent prendre vraiment des mois pour trouver la bonne personne. Après, effectivement, quand les critères, par exemple, il peut y avoir aussi des idées de critères techniques très précis. Parfois, que dans certains cas, on peut quand même arriver au fait que la personnalité et la motivation vont venir un petit peu compenser peut-être certaines compétences que finalement, on va assouplir un petit peu tout ça.
On va essayer, on va faire un test. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça quand même ? Parce que d'un côté, c'est quand même assez aberrant. Il y a effectivement beaucoup de demandeurs d'emploi en France.
Tout à fait.
De l'autre côté, il y a une offre.
Tout à fait.
Mais qui ne correspond pas ?
Qui
comment
ne correspond
arriver
pas
à mettre ça en adéquation d'après vous ?
En faisant confiance, la confiance c'est important, en faisant confiance au fait que peut-être que même si la personne n'a pas effectivement toutes les compétences qu'on imaginait, elle va y arriver parce que les personnes ont des capacités d'adaptation formidables, de formation, de compréhension et que finalement on s'aperçoit qu'au final ça peut donner des choses très 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 intéressantes. Mais c'est vrai que c'est un travail d'essayer d'assouplir et de faire confiance, je crois
c'est
important.
Ouais. Restaurer la confiance ou l'instaurer tout simplement.
L'instaurer,
peut-être,
exactement.
Cas. Vous devez connaître, Virginie, tous les métiers pour lesquels vous recrutez.
Alors, j'essaye bien entendu de comprendre et de connaître, et je me plonge toujours l'entreprise en amont, et puis j'essaye de comprendre le métier. Mais c'est vrai que je travaille de manière forte, en relation forte au départ, sur un descriptif de poste bien serré, j'allais dire, sur lequel je vais vraiment essayer d'avoir toutes les informations pour partir dans la bonne direction et justement comprendre là où je dois aller. Sur des profils très techniques, il m'arrive parfois, alors j'ai des limites, bien entendu, je maîtrise pas la technique de tous les postes, loin de là, mais dans ce cas, quand c'est un profil très technique, je fais toujours un premier point, j'envoie toujours un CV en amont au directeur technique ou au responsable qui va valider certaines fois, mes profils, pour bien comprendre si je suis dans la bonne direction.
Alors, quels sont les métiers les plus recherchés actuellement ? Ceux sur lesquels vous avez du mal à recruter ?
Alors, je dirais que les bons commerciaux, c'est toujours compliqué. Alors, quand je dis bons commerciaux, c'est des gens aussi qui aiment faire de la chasse, des gens qui vont faire de la prospection. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu tabou en France, le côté commercial. On a l'image parfois un peu négative, alors que c'est des métiers qui peuvent être passionnants. Mais quelqu'un qui va avoir envie d'oser aller et de prendre des noms, c'est pas toujours si simple à trouver. Donc ça, c'est des profils, effectivement, de ce type-là. Des profils dans l'informatique très ciblés. Alors, ça peut arriver aussi qu'il y ait des vraies pénuries. Mais ça bouge. Il y a quelques années, par exemple, j'ai recruté, il y avait pénurie sur des infirmières, ni plus ni moins, il y a 5-6 ans. Mmh. Et j'ai recruté, par exemple, des infirmières pour les maisons de retraite où ils n'arrivaient pas à trouver et où je chassais. Donc, je dirais que ça tourne parfois aussi, ça change et c'est pas forcément là où on imagine. Ça peut, ce que je dis aujourd'hui peut être différent dans quelques années. Effectivement, avec des émergences de nouveaux métiers, ça bouge tout le temps. Donc, il faut être aux aguets.
Vous n'êtes pas uniquement que sur du recrutement top cadre avec des profils à haut potentiel, par exemple?
Pas que ça, parce que y a des entreprises qui me font confiance aussi, pour lesquelles j'ai recruté tous les profils depuis l'assistanat jusqu'au profil responsable informatique. Mais c'est vrai que la niche, la valeur ajoutée, c'est vrai qu'elle se porte sur ce côté profil un peu pénurique. Mais j'aime beaucoup tout type de profil. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec l'autre, tout simplement. Et j'allais dire que dans tous les métiers, on rencontre des personnes qui ont une passion de leur métier, qui vont être en adéquation avec mes clients. Et là, la rencontre va pouvoir se faire.
Alors, on n'a pas l'image d'un recruteur en vous voyant, parce que vous êtes avenante, souriante, aimable, agréable. Généralement, le recruteur, c'est quelqu'un d'austère, de froid, qui n'est pas sympa et qui est là pour vous casser.
Alors, je pense effectivement, moi je fais aussi de la formation, c'est intéressant ce que vous dites, à l'entretien de recrutement, je forme dans les entreprises. Je pense qu'au contraire, quand on est agréable, avenant, en fait, les gens se livrent plus facilement et parlent plus facilement. Un recruteur qui est froid, qu'est-ce qu'il aura? Quelqu'un
un
qui
mur
va se raidir.
Voilà.
Et donc, c'est pas l'intérêt. Moi, je pense au contraire. Alors, c'est ma personnalité. Parfois, devant des gens qui se la racontent un petit peu, je peux être plus froide. Attention.
Voilà, bien sûr.
Mais
c'est pas l'objectif aujourd'hui.
C'est pas l'objectif, exactement. Voilà.
Merci, on se retrouve tout de suite. Vous restez avec nous, Virginie.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de l'émission avec Virginie Granier, chasseur de tête. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Merci de nous rejoindre, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à Virginie aujourd'hui. Virginie, c'est nous qui posons les questions.
Et ça me change et c'est très bien.
Alors j'ai été frappé, vous avez évoqué tout à l'heure des critères de sélection de candidats et vous avez mis en avant le sens du travail, les valeurs de l'entreprise, comme étant quelque chose d'extrêmement important pour faire une bonne prise, j'allais dire, puisque vous êtes chasseur de tête.
Tout à fait, bien entendu. Je pense que les personnes, les candidats qui vont être amenés à travailler 5 jours sur 7 et au minimum un certain nombre d'heures dans la journée ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et le travail, on peut pas aller travailler correctement si on ne voit pas le sens de nos actions. Et donc je travaille beaucoup là-dessus et sur les valeurs, effectivement. Les valeurs, c'est effectivement quand quelqu'un... Je demande toujours à une entreprise que je vais rencontrer, à un dirigeant, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, c'est une question que je pose toujours systématiquement à mon candidat pour comprendre s'il peut y avoir justement cette rencontre, parce que c'est essentiel, effectivement. C'est, pour que ça fonctionne ensemble, c'est très important.
Mais est-ce que vos clients, vos donneurs d'ordre, fonctionnent toujours dans ce registre-là?
Une fois, j'ai eu le cas, d'ailleurs c'était un client pour lequel je n'ai pas travaillé, à ma question, lui-même était, je pense, en partance, entre guillemets, à ma question, quelles sont les valeurs de l'entreprise ici, il m'a répondu aucune. Et c'est vrai que
ça vous a un petit peu surprise.
Ça m'a un peu surprise, effectivement. Donc cette question, elle est souvent très bien reçue. Je me permets de dire qu'aujourd'hui aussi, c'est peut-être un luxe, mais je veux choisir aussi les clients pour lesquels je travaille. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer envoyer des candidats dans des entreprises où les valeurs ne me paraissent pas être, entre guillemets, adaptées à mes candidats. Et ça, c'est, et il y a des, pour être aussi tout à fait transparente, c'est une manière de, pour moi, de travailler, il y a des clients pour lesquels je ne travaillerai plus également.
On veut des noms.
C'est un peu ce que vous dites sur votre site. Là, j'ai vu que vous fêtiez vos 10 ans de connexion.
C'était en juin, cette année.
Et vous dites quand connexion rime avec émotion, bienveillance, non-discrimination, respect des clients et des candidats, et vous voulez incarner des valeurs parfois malmenées dans l'univers du recrutement.
Tout à fait.
C'est fort ce que vous dites.
C'est fort, c'est pas toujours évident. Pour moi, c'est important d'être toujours tiré vers le haut. C'est-à-dire que je pense effectivement que tout ça, j'essaye toujours de le garder en tête. Alors, c'est pas toujours évident, hein, de je veux dire, c'est écrit sur un papier, mais moi, j'essaye vraiment de me dire ça, s'il faut le mettre chaque jour et essayer, en tout cas, de l'expérimenter, de le vivre. Et c'est vrai que, oui, quand je dis valeur dans le recrutement malmené, j'ai eu des candidats qui m'ont parlé de fonctionnement, de cabinet de chasse, etc., qui étaient, il n'y avait pas de respect. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contactés par la suite, ils ne savaient pas ce qu'ils devenaient, même après des entretiens, on leur donnait aucune réponse. Je ne dis pas que, en tout cas, moi, parfois à 22h le soir, j'essaye de faire les réponses à tous les candidats qui m'envoient des candidatures. Parfois, il y a certainement, et je m'en excuse à ce micro, peut-être certains cas où c'est passé à la trappe, mais j'essaye de respecter mon client, mon candidat, et je sais que ce n'est pas toujours le cas partout, effectivement.
Parce que on voit bien qu'il y a quand même des personnes qui se retrouvent un jour sur le marché de l'emploi, parce qu'ils se sont trouvés en conflit de valeurs avec leur entreprise, ça existe.
Oui.
Vous en avez sûrement rencontré.
Oui, ça peut exister. Et j'ai des candidats qui me disent qu'ils sont très mal, ils me le disent, ils sont à l'écoute parce qu'ils sont très mal, effectivement, et qu'ils peuvent plus, ils sont plus dans la logique de la stratégie, de la politique de l'entreprise, effectivement.
Mais est-ce que vous pouvez avoir un dialogue, dans certains cas, avec les entreprises pour leur faire comprendre, finalement, que ça peut être aussi leur intérêt de recruter des personnes qui sont sur les valeurs, qui cherchent un sens à leur travail et qui ne sont pas là uniquement pour faire du chiffre ou pour faire, etc.
Bien sûr, c'est des choses que je mets en avant et je pense que, effectivement, pour que les gens travaillent bien, encore une fois, on revient sur le fait que s'ils perçoivent qu'il y a une cohérence entre qui ils sont et le projet de l'entreprise, ils vont être d'autant, en fait, ils y seront
motivés,
bien et donc ils vont bien travailler. Enfin, je pense que de toute façon, les chefs d'entreprise savent forcément pertinemment qu'on ne marche pas, on ne peut pas marcher qu'à coup de chiffre d'affaires, même si c'est bien sûr qu'il faut avoir le sens du résultat, de l'objectif, c'est important, voilà, c'est la vie d'une entreprise, c'est tout à fait important, mais ne pas oublier que ça ne se fait pas à n'importe quel prix, entre guillemets.
Et il y a ce côté humain. Alors justement, vous parlez de valeurs, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme méthode de recrutement? On l'abordait rapidement en première partie de cette émission, sur le côté recruteur égale recruteur austère, etc., uniquement là pour vous tendre des pièges. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou ça évolue?
Je crois que ça évolue. Je crois qu'il y a quand même, de plus en plus de recruteurs qui essaient d'être dans le respect. Il y a eu moi, je me suis formée à la non-discrimination. On sait aujourd'hui que même si, c'est pas toujours évident d'avoir toujours ça en tête, mais c'est important. Et il y a des formations. Il y a à Compétences Égales, qui est une association qui travaille sur tous ces sujets.
Ouais,
je vous invite il y a des guides qui sortent pour être des recruteurs de plus en plus objectifs, même si c'est compliqué parce qu'on reste des êtres humains. Donc la subjectivité, on sait qu'elle existera toujours.
Sur la première impression, par exemple.
Oui, mais justement, quand avec le temps et l'expérience, on apprend à objectiver de plus en plus. Et donc, être un bon recruteur, pour moi, c'est aussi ne pas se caler que sur ses premières impressions, c'est aller au-delà, c'est accepter qu'on ne va pas recruter forcément ceux qui nous ressemblent, mais celui qui va bien mener le poste. Et on apprend, mais c'est vrai que c'est un travail de vigilance permanent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un métier qui reste passionnant, parce que j'apprends toujours et j'ai toujours une vigilance. Je ne suis pas en mode tiens, ça y est, c'est acquis. Non, chaque recrutement, c'est pas une science exacte, donc c'est ça qui est passionnant.
Vous accompagnez justement des jeunes en école de commerce, alors ça c'est une remise en question permanente, c'est une manière d'avancer également. Quel est le message que vous leur faites passer, Virginie?
Alors, le message que je leur fais passer, c'est d'essayer d'oser, ça je crois que c'est important, et notamment pour les femmes aussi, je le dis, parce qu'on est très marqué parfois des choses où on n'ose pas forcément, et à 20 ans, on n'ose pas forcément on n'ose pas forcément sortir un peu de l'image dans laquelle nos parents nous ont vus, par exemple, et donc il faut oser être soi, mais ça prend du temps, ça prend toute une vie.
Ça peut prendre toute une vie.
Ce qui reste passionnant. Mais voilà, je leur apprends à oser, à ne pas se limiter, parce que j'allais dire qu'en plus à 20 ans et même après, tout est possible. Il faut essayer d'aller vers ce qu'on a envie de faire, de laisser vivre ses passions. Et si on n'a pas de passion, ce qui est possible, on sait pas toujours ce qu'on veut faire. C'est contacter les autres, c'est demander à des recruteurs, des conseils, des idées et écouter beaucoup.
Écoutez, on y revient. Pierre-Yves, on vous écoute.
Vous pouvez nous donner un exemple, sans donner de nom bien entendu,
d'une
belle prise à votre tableau de chasse?
Un trophée.
Oui, bien sûr. Je pense à, en fait, j'ai fait venir un Parisien, mais dont la femme avait des origines de Castres. Alors, il travaillait, c'est pour le domaine de l'automobile. Il travaillait, effectivement, en région parisienne. Je l'ai approché sur les réseaux sociaux, sur Viadeo. On a eu un échange qui a fait mouche assez vite. Et il se trouvait que ce garçon, dans son entreprise, il allait avoir certainement un plan social. Et lui, il avait à peu près, je sais pas, dans les 35 ans, à un moment où il avait des enfants, une envie d'aller vers une vie provinciale, retourner vers cela. Et donc, ça a été je trouve que ça fait 4-5 ans à peu près qu'il est dans l'entreprise, ça se passe très très bien. Et ça, c'est, comme vous dites, une jolie prise parce que ça correspondait à un moment de sa vie où ça s'inscrivait dans son projet de vie, ni plus ni moins, un projet de vie et projet professionnel. Et donc, moi j'étais ravie de trouver ma petite perle, entre guillemets, ma perle d'ailleurs, et à la fois de contribuer quelque part au projet de vie, c'est ça qui est passionnant, quelqu'un.
Ça, c'est une satisfaction pour vous.
Ça, c'est une grande satisfaction.
Métier, ouais, sur un plan personnel.
Tout à fait.
Que recherchent les entreprises aujourd'hui, Virginie? Est-ce qu'on recherche d'abord des juniors ou alors est-ce que c'est en train de changer, ou il y a un peu les deux, seniors, juniors, un bon mix?
Alors, il y a toujours des choses qui restent des clichés, par exemple, sur parfois les seniors, même si ça bouge un petit peu. C'est vrai qu'on sait que un certain nombre de nos présidents ont débuté, quand ils sont devenus présidents, ils avaient au moins 50 ans. Donc, moi, je dis que c'est une manière dans le recrutement de se dire que même pour les plus hautes fonctions de l'État, finalement, minimum 50 ans, c'est une bonne chose. Donc, moi, je trouve que ce serait bien que toutes les entreprises écoutent et prennent ça en compte pour se dire que c'est la même chose dans le monde, dans l'entreprise. Enfin, quand je dis ça, je pense que ce qui est important, c'est de se caler sur la personnalité. Et encore une fois, les juniors ont tout à apporter. Chacun, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la diversité dans une entreprise, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des plus seniors. Ce qui est intéressant, c'est que chacun apporte justement son expérience, sa fraîcheur, etc., etc.
C'est aux recruteurs aussi de faire bouger les choses.
C'est à nous, bien entendu, d'avoir un discours et sur la personnalité. C'est pas forcément une question d'âge, de sexe, etc. C'est une question de personne, et de travailler sur ça et de montrer que quand on a la motivation, encore une fois, ça, je pense que c'est un terme très important dans le recrutement. Quand il y a de la motivation, quelle que soit la personne, qu'elle est 50 ou 25, j'ai des gens de 50 ans qui ont plus parfois d'énergie que certains de 25. Ça veut pas dire que ceux de 25 n'en ont pas, attention, mais voilà, c'est une question de personne, encore une fois.
Ça coûte cher pour une entreprise de passer par un chasseur de tête. C'est un vrai investissement pour l'entreprise.
C'est un investissement, bien entendu, mais le recrutement, c'est tellement important. L'erreur peut coûter aussi très cher. Donc, il vaut mieux avoir, je pense, fait appel à un chasseur et un recrutement réussi que peut-être être parti avec un échec parfois. Donc moi, je sais que j'ai des clients qui m'ont dit que effectivement ils avaient eu des successions de difficultés, d'échecs, et ils étaient contents de passer par un chasseur qui a permis d'avoir un recrutement un peu plus, j'allais dire, plus dans la pérennité,
ouais,
souvent.
C'est ça.
Mais effectivement, c'est un coût qui varie selon si c'est de l'approche directe, selon si c'est du recrutement par annonce. C'est une idée de temps passé aussi. La chasse, c'est quelque chose de très chronophage. Forcément, n'a pas le même coût qu'un recrutement par annonce.
Comment vous voyez votre métier dans les années qui viennent?
Alors, je vois qu'on a toujours notre place, je pense. Ouais. C'est-à-dire que même si, alors, avec l'explosion des réseaux sociaux, nouvelles technologies, etc., oui, des mobiles, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, on peut contacter les candidats presque, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais en tout cas, c'est vrai que c'est de plus en plus, c'est les tendances aujourd'hui, effectivement, de moins en moins de frontières, on va dire, sur les horaires, etc. Maintenant, il reste toujours la complexité d'arriver à le joindre, parce que je vais vous dire quelque chose, les réseaux sociaux, tout le monde est sursollicité, tout le monde reçoit beaucoup de messages, et en fait, je peux vous dire que les gens ne répondent pas forcément à mon message via LinkedIn.
Voilà, tout le monde a plein d'amis, mais...
Exactement, mais on répond pas toujours aux sollicitations, et il faut toujours trouver plein de stratégies pour arriver à la personne. Et donc, je pense qu'on existera toujours, parce que déjà, le recrutement n'est pas une science exacte, et c'est très compliqué, même si c'est passionnant. Et parce que, de toute façon, ça prend beaucoup de temps de recruter.
On peut rappeler l'adresse de votre site, on peut vous joindre, vous envoyer des CV?
Oui, on peut m'envoyer des CV, bien entendu.
Votre adresse?
Alors, mon adresse, c'est virginie.granier. GRANIER@ Alors, chasse de tête. Alors, c'est tout attaché, chasse au singulier, tête au pluriel, sans accent.com.
Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre? C'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.